Onde Femmes, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage.
Onde Femmes. Femmes, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs qui nous rejoignez dans Remue Ménage, Onde Femmes Radio Zone 93.8, comme tous les mercredis. Et nous serons ensemble jusqu'à 18h30. Et aujourd'hui, pour aborder un sujet qui a fait l'objet d'une grande revue de presse pendant un certain temps, à plusieurs reprises, qui est un problème important qui concerne la médecine, qui concerne en l'occurrence les femmes en particulier, puisqu'il s'agissait de la condamnation d'un médecin gynécologue dans une clinique privée de Genève, la clinique Boisgentil, pour lésions corporelles grave et pour escroquerie à partir de plaintes déposées par des femmes, par des patientes qui avaient osé attaquer un médecin, ce médecin, ces médecins d'habitude si protégés et qu'il a fallu, pour lequel il a fallu avoir beaucoup de courage pour oser dire ce qui leur était arrivé et s'opposer à certaines pratiques. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie des deux femmes qui ont les premières porté plainte contre le médecin en question. Le médecin en question, c'est le docteur Marc Skouvaklis. Et je vous le disais, il était médecin répondant de la clinique de Boisgentil à Genève, clinique spécialisée en gynécologie et accouchement. Et nous sommes aussi, les deux femmes qui sont avec nous aujourd'hui, nous les appellerons Laurie. Bonjour Laurie.
Loli.
Loli, pardon, excusez-moi, Loli. Et Marie. Bonjour Marie. Et puis nous sommes en compagnie de Rina Nissim, que vous ne connaissez bien et qui nous accompagne souvent lorsqu'il s'agit de parler de la santé des femmes. Bonjour Rina.
Bonjour.
Et Viviane qui est avec moi pour poser les questions nombreuses qui nous intéressent de poser à propos de cette question-là, qui pose bien sûr des problèmes importants du droit des patientes et puis de pratiques médicales aujourd'hui, comment contrôler, comment surveiller les agissements de certains médecins, de la médecine, et comment se fait-il qu'il est aujourd'hui toujours si difficile de remettre en cause ce qui peut se passer dans une clinique, dans le bureau d'un médecin, parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut effectivement toujours une énorme dose de courage pour oser remettre en cause le traitement, le jugement, la pratique d'un médecin. Alors je crois, Rina, la première chose qu'il faut faire, c'est peut-être rappeler les faits extrêmement résumés, parce que c'est une histoire qui, hélas, dure depuis longtemps. On a parlé de premières attaques, de premières plaintes à l'égard du docteur Skouvaklis. Depuis 1991, je crois. Il a été condamné en juillet 1994 et aujourd'hui, on en reparle. Pourquoi ? Alors, Rina, l'histoire.
Alors, l'histoire, en fait, commence bien avant parce que le docteur Skouvaklis était déjà bien connu du mouvement de libération des femmes. Dans les années 70, nous avions un fichier des gynécologues dans lequel nous recueillions les témoignages. Et déjà à cette époque, le docteur Skouvaklis était classifié de boucher. Donc ça fait bien longtemps que pas mal de soignants à Genève recevaient régulièrement des témoignages de femmes se plaignant de ces traitements, de ces opérations inutiles et généralement non remboursées par les caisses maladies. Donc il y a dû, pendant toutes ces années, il a certainement dû bénéficier d'une couverture pour pouvoir continuer cette pratique. Et plusieurs femmes se sont déjà plaintes ou à leur caisse maladie ou à la Fédération des caisses maladies ou à l'Association des médecins. Elles n'ont jamais obtenu aucun soutien pour faire un procès contre ce médecin. Plus tard encore, il a commencé à faire des fertilisations in vitro. Là aussi, comment a-t-il obtenu cette autorisation ? Tout n'est pas très clair. Le fait est que ça a continué donc de cette manière jusqu'à ce que finalement, celles par qui le scandale arrive sont ici avec nous aujourd'hui et on doit vraiment beaucoup à leur courage parce que ça a été un tournant très important pour nous et pour tous les usagers de la santé, je dirais, d'avoir réussi à faire condamner un médecin pour ses actes. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc, c'est Loli et Marie qui étaient parmi les premières plaignantes. Le premier article qui était paru dans l'Hebdo en mars 92 a été l'article tournant, si vous voulez. Donc le soutien des médias a été très important dans cette histoire parce que ça leur a permis de rencontrer plusieurs autres plaignantes, plusieurs pour lesquelles il y avait prescription et qui n'ont pas pu se joindre à elles ou qui n'ont pas osé se joindre à elles. Mais il y en a néanmoins eu cinq qui se sont jointes et ça a donné au procès un caractère beaucoup plus large, disons, que l'histoire personnelle de l'une ou de l'autre. Ce procès a été fascinant du début jusqu'à la fin parce que Skouvaklis a toujours nié, a toujours fait des grandes phrases pour dire, pour sauver sa dignité, qu'il était un homme d'honneur, que ceci, que cela. Ajouter également qu'il y avait de nombreuses affaires financières, c'est-à-dire que la clinique tournait à la faillite. Il y avait toutes sortes de sommes d'argent qui étaient employées en fait pour entretenir ses maîtresses, pour acheter du matériel fort coûteux que pratiquement personne ne savait utiliser dans cette clinique. Donc il y avait un volet financier qui était très très important aussi dans ce procès dont nous parlons peut-être moins aujourd'hui.
Dont des tarifs absolument prohibitifs pour certains soins donnés aux femmes.
Oui, cela aussi. Mais aussi, à un certain moment, comme il allait couler, il a vendu, en fait, soi-disant, la clinique à sa femme, qui était en fait l'administratrice de la clinique, qui était une femme très jeune et qui signait des budgets douteux, mais elle ne se rendait absolument pas toujours compte de ce qu'elle signait, du moins au début de sa carrière. Ce procès a beaucoup de tiroirs différents, si vous voulez. Celui qui nous importe le plus, quand même, c'est ce que ces femmes ont réellement subi et le fait qu'elles aient eu le courage et qu'elles aient réussi à faire condamner ce médecin pour ses actes. Il a été donc condamné pour lésion corporelle simple, lésion corporelle grave, pour escroquerie. Et avec tout ça, il a quand même pris que 4 ans ferme, dont il a déjà tiré 2 ans en préventive. Et il est actuellement toujours en liberté. C'est bien ce qui nous scandalise et c'est une des raisons pour lesquelles nous voulions reparler aujourd'hui de toute cette affaire.
Comment expliquer juste, juridiquement parlant, qu'il puisse être en liberté? Ça veut dire qu'au lendemain de sa condamnation en juillet 1994, il a été libéré de sa préventive?
Il a été condamné à une peine ferme. Sa femme a également été condamnée à une peine ferme. Elle a pris 18 mois ferme, l'administratrice de la clinique. Donc, et ils sont tous les deux ressortis libres. Ils ont fait recours. Ils ont fait recours pour essayer de faire rejuger cette affaire. Donc, la justice a estimé que l'affaire n'était pas assez grave pour ou que les 2 ans de préventive qu'il avait déjà fait étaient suffisants pour le laisser en liberté jusqu'à ce que cette affaire soit rejugée. Ceci dit, elle peut être rejugée pour une peine plus lourde aussi, et c'est possible que ça lui retombe sur le nez, cette histoire.
Mais en l'occurrence, bon, déjà quelques mois se sont écoulés puisque le jugement a été juillet 94 et pour l'instant, rien ne s'est passé. C'est ce qui motive votre colère, Loli et Marie, c'est cela?
Ce qui motive notre colère, c'est en effet voir sortir cet homme libre du jugement parce que c'est vrai qu'il y en a d'autres qui, pour moi, de motif, iront en prison. Mais il est vrai aussi, apparemment en Suisse, lorsqu'on fait appel, eh bien, on peut se trouver, en attendant le résultat de cet appel, en liberté. Alors, nous, ça nous choque. Il y a plusieurs choses qui nous choquent. D'une, c'est là. L'autre, c'est que ce monsieur se dit sans le sou et puis qu'il a un avocat qui est payé d'office. Et puis, les parties civiles, c'est-à-dire nous, eh bien, nous devons payer nos propres avocats. Moi-même, j'ai de la chance puisque j'ai une assistante juridique qui me paye mon procès, mais je prends le cas de Marie ou le cas d'autres personnes qui sont au chômage. Elles doivent payer de leur poche leur propre avocat et ces messieurs, eh bien, c'est nous, contribuables genevois, qui payons son avocat. Et ça, c'est à nos yeux inacceptable.
Alors, je pense que la première chose qu'il est bien sûr très importante de préciser, Loli et Marie, c'est qu'est-ce qui avait fait que vous avez osé eu le courage de porter plainte contre ce médecin. Parce que, on l'a dit, il a été condamné pour lésions corporelles simples et graves. En l'occurrence, vous, bien évidemment, en tant que plaignante, vous considérez que c'était des lésions corporelles graves ou en tout cas des pratiques médicales incroyables qui vous ont porté gravement préjudice. Comment avez-vous pris la décision, Loli, vous qui étiez la première à porter plainte contre lui, de décider de faire cette démarche-là? Parce que ce n'est pas facile de s'attaquer à un membre du corps médical, il est vrai. Et d'autant plus ce monsieur dont on sait qu'il jouissait sur la place publique genevoise d'une protection incroyable. C'était un homme très public qui organisait des concerts de bienfaisance à tout bout de champ. Il était protégé par beaucoup de gens, y compris par le ministre de la Santé de l'époque, Guy-Olivier Segond.
Toujours Monsieur Guy-Olivier Segond, il est toujours encore actuellement ministre de la Santé. Voilà. Ce qui m'a, forcé à agir, c'était qu'une fois que j'ai dit à plusieurs médecins ce qui m'était arrivé, eh bien ces médecins m'ont dit, mais madame, il ne fallait pas aller chez le docteur Escovaclis. J'ai dit, comment ça se fait? Ben, vous savez, tout le monde sait ce qui se passe à la clinique Bois-Gentil. Tout le monde sait, mais pas nous, les patientes. Alors moi, je me suis révoltée. J'étais révoltée de savoir que le monde médical savait, ça faisait 20 ans que tout le monde savait ce qui s'est passé dans sa clinique et que personne n'avait osé agir. Eh bien, moi, je me suis dit que je ne voulais pas que d'autres femmes subissent le même sort que moi. Et ce qui m'a, poussée à agir, c'est quand j'ai connu l'affaire des maris ici présentes. Et je me suis dit, non, là, ça ne peut plus continuer. Il faut vraiment que quelque chose se passe. De plus, j'avais déposé plainte auprès de la commission de surveillance des professions de la santé. Et je me suis rendu compte que là aussi, ça ne bougeait pas beaucoup. Et j'avais peur que mon dossier soit mis dans les oubliettes. Alors, j'ai pris un avocat, j'ai déposé plainte pénale. Et j'ai demandé à mon avocat une seule chose, c'est que je voulais absolument prendre un journaliste et je voulais que cette journaliste, parce que j'ai voulu que ce soit aussi une femme, prenne face donc une enquête et que l'affaire soit rendue publique parce que je voulais que les femmes sachent. Je ne voulais pas, c'est un problème de conscience avec moi-même, laisser cette affaire comme ça et qu'on continue à ignorer ce qui se passait dans cette clinique. C'est pourquoi j'ai voulu faire connaître aux femmes de Genève la situation sur la Bois-Gentil et la situation sur les docteurs Escovaclis.
Mais concrètement, je sais, c'est peut-être très difficile de raconter cette histoire. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé avec le docteur Escovaclis?
Eh bien, je voulais depuis longtemps avoir des enfants et j'avais un médecin et il était un peu vieillot sur les pratiques. Et je suis allée sous le conseil d'une amie voir le docteur Escovaclis. Il m'a dit tout de suite, c'était en 89, qu'il fallait faire une opération des trompes. J'avais les trompes bouchées. Et qu'après cette opération, je pouvais, après 6 mois, tomber enceinte assez facilement. Les 6 mois, les 8 mois se sont écoulés et puis je suis tombée pas enceinte. Il m'a fait un traitement aux hormones. Et puis après, il m'a conseillé de faire une fécondation in vitro. J'avais bien entendu parler de la fécondation in vitro un peu partout. Et puisque c'était la seule solution pour moi possible, eh bien j'ai accepté, bien sûr. Et il m'avait un petit peu mis au courant de comment ça allait se passer. Et j'ai signé un contrat de mandat pour cette fécondation in vitro, c'est-à-dire que je devais à un moment donné aller en salle d'opération pour me faire des prélèvements d'ovules. Ces prélèvements d'ovules devaient se passer par voie vaginale, donc ça devait être fait sous une toute petite narcose. Et en fait, je suis rentrée en salle d'op. Quand je me suis réveillée, j'étais horriblement mal. J'avais des nausées, j'avais très très mal au ventre. Et j'ai demandé aux infirmières, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis comme ça? Les infirmières, c'était le blackout total. On ne voulait pas me dire ce que j'avais. On m'a dit tout simplement, le docteur viendra vous voir. J'ai dû attendre 24 heures pour savoir ce qui m'était arrivé. Eh bien, il est venu me dire qu'il ne pouvait pas donc avoir mes ovules par voie vaginale et qu'il avait été obligé de m'ouvrir. Sur le coup, moi, je ne savais pas de combien j'étais ouverte. Je pensais que c'était 2 ou 3 centimètres. Mais 48 heures après, j'ai vu qu'il m'avait ouverte exactement de 19 centimètres. 48 heures après, on m'a fait, on m'a mis les soi-disant embryons. Et je suis restée en clinique encore une semaine. Je suis repartie. Il m'a dit donc que tout s'est passé le mieux du monde, mais que je devais venir une fois par semaine pendant 12 semaines faire des injections et aux hormones. C'était très important pour garder le bébé. Donc j'étais pendant 9 semaines faire une piqûre à la clinique. Et ces hormones avaient comme caractéristique de me faire l'empêchement de mes règles et j'avais tous les symptômes d'une femme enceinte.
Voilà. Ça imite les symptômes d'une grossesse et ça s'appelle le gravidon.
Et là, les gravivinons, exactement. Le 28 mars, c'est-à-dire 6 jours après ma sortie des cliniques, il m'a fait un examen du sang. Évidemment, je n'ai pas connu le résultat des examens que bien plus tard. Eh bien, pendant 9 mois, j'étais sûre que j'étais enceinte. Et deux mois et quelques plus tard...
Pas 9 mois, 9 semaines.
9 semaines, voilà. Pardon. Pendant 9 semaines, je crois que j'étais enceinte. Et un jour, je ne suis pas allée faire ma piqûre parce que je ne me sentais pas très bien. Et j'ai eu des pertes de sang. Alors, il m'a dit que... Je lui ai téléphoné. Il m'a dit que j'étais certainement en train de perdre le bébé, qu'il fallait que je reste couchée, que je fasse encore des injections, ce que j'ai fait. Et puis, il m'a dit une phrase qui m'a bouleversée et qui m'a fait réfléchir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il m'a dit, ça ne fait rien, on recommencera. Et je lui ai demandé, qu'est-ce qu'on allait recommencer? Il m'a dit, on refera une fécondation in vitro. Et moi, cette réponse m'a laissé un petit peu perplexe. Et je voulais aller voir un autre médecin pour être sûre. Parce que je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas là. J'étais sûre d'être enceinte. Mais je me suis dit, il est capable de me faire un courtage pour me faire plus d'argent, puisque une fécondation in vitro, je lui ai payé 10 000 francs.
Mais donc vous vous méfiez déjà de lui, alors si vous...
Je ne me méfiais pas de lui, c'était sa phrase. Sa phrase, je me dis, il y a quelque chose de pas normal. Mais moi, j'étais persuadée d'être enceinte.
Parce qu'en même, il faut déjà avoir une sacrée méfiance pour se dire, il est capable de me faire un curtage pour recommencer pour des histoires d'argent. On sait ce que ça veut dire d'émotion et de problèmes que d'essayer d'avoir un enfant.
Parce qu'elle le sait aujourd'hui. Parce que je le sais aujourd'hui. Mais à l'époque, ce qui m'a fait tilt, c'était cette phrase. Mmh. Je me suis dit, comment ça se fait qu'il me dise ça? On recommencera, mais je suis enceinte. Il faut d'abord que lui se préoccupe de me sauver le bébé. Voilà. Vous comprenez? Je ne comprenais pas comment un médecin ne me dit pas, venez tout de suite, on va voir ce qui se passe. Il me dit d'emblée, on recommencera. Alors évidemment, moi, j'en me fais tilt. Voilà. Alors je vais voir un médecin qui me fait certifier que je ne suis pas enceinte.
Et que je ne l'ai jamais été.
Et que je ne l'ai jamais été. Que je ne l'ai jamais été, je l'ai eu. Donc tout de suite, il m'a dit que je n'étais pas enceinte, mais qu'il allait me prendre le sang, qu'il allait me confirmer. Et 48 heures après, il m'a confirmé et m'a dit, vous ne l'avez jamais été. Pourquoi? Parce que dans le sang, je le sais maintenant, je ne le savais pas à l'époque, il y a l'HCC bêta qui monte et qui a, même si on parle bébé, il a beaucoup de peine à les descendre, mais quand même, on voit la trace si une femme a été enceinte ou non. Et dans mon cas, évidemment, il n'y avait aucune trace. Comme il n'y avait aucune trace le 28 mars, lorsque M. Skouvaklis m'a fait la prise de sang, à ce moment-là, déjà, il savait que je n'étais pas enceinte. Donc pendant 9 semaines, presque 3 mois, m'a fait croire que j'étais enceinte.
En vous faisant payer donc le prix de la fécondation.
Ah, mais sans payer presque 10 000 francs de la fécondation in vitro dont les assurances m'ont rien remboursé, parce que vous savez très bien qu'ils ne remboursent pas. En me faisant payer les échographies, en me faisant payer évidemment tous les visites chez lui et puis en plus les injections de gravivinon.
Et est-ce que vous avez su ensuite, peut-être à l'occasion du procès, pourquoi il vous avait ouvert?
Non, il m'a dit tout simplement à l'époque que parce qu'il n'arrivait pas à avoir mes ovules, c'est pour ça que j'en avais qu'un ovule. La seule façon de l'avoir était de m'ouvrir le ventre. Mais c'est une pratique qui ne s'est fait absolument pas.
Mmh. Donc vous pensez qu'il a quand même essayé l'implantation de l'embryon, que celle-ci n'a pas réussi et qu'il vous a menti à ce moment-là, mais qu'il a quand même essayé de le faire? Ou vous doutez aujourd'hui même qu'il a essayé?
Je doute aujourd'hui surtout. Je doute d'autant plus que je suis convaincue que M. Skouvaklis a fait tout ça pour de l'argent. Donc, et dans cette opération, il a gagné 11 000 et quelques francs de mon assurance. Presque 10 000 de la fécondation in vitro. Donc c'est une opération qui était assez fructueuse pour lui. Et évidemment, quand il m'a dit, et je reviens à cette phrase, c'est clair que j'étais quelqu'un qui était pour lui d'un bon revenu.
Vous êtes allée lui dire « Je ne suis pas enceinte, qu'est-ce qui se passe ?»
Écoutez, lorsque je suis allée chez ce médecin et que ce médecin m'a dit « Mais écoutez, madame, vous savez, le docteur Escovaclis, c'est l'école du monde médical, c'est pas là qu'il vous aurait dû aller, mais enfin, voilà, c'est un homme qui fait beaucoup de tort à la médecine genevoise. » Moi, je me suis dit « Mais bon, ben moi, qu'est-ce que je vais faire ? J'avais rendez-vous chez lui. » J'avais rendez-vous chez lui et je me suis dit « Je vais aller, je vais voir ce qu'il va me dire. » Alors bien entendu, ce médecin m'a dit d'arrêter les injections de Gravimno, ce que j'ai fait. Et j'ai eu pendant 10 jours mes règles que je n'avais pas eues pendant 3 mois. Alors quand je suis arrivée chez lui, donc j'avais rendez-vous, il m'a dit qu'il avait été très préoccupé par moi, c'est-à-dire un mois avant ça, par mon état, et puis qu'il se faisait beaucoup de soucis, mes pertes de sang et tout. Alors, il m'a de nouveau fait une échographie et il m'a dit, vous voyez, vous êtes en train de perdre les bébés. Alors qu'à ce moment-là, évidemment, il n'y a plus rien. Il n'y a jamais rien eu, mais là, il n'y avait même pas mes règles, il n'y a rien. Et moi, j'étais stupéfaite de ce qu'il me disait. Mais évidemment que je voulais savoir jusqu'où il avait le culot d'y aller. Et alors, quand il m'a dit que j'étais enceinte, alors je lui dis, bon, bah, écoutez, j'aimerais que vous me fassiez un certificat de grossesse, puisque maintenant, ça fait 3 mois que je suis enceinte. Et il m'a dit, écoutez, je pense que le bébé est peut-être mort, il va falloir que vous veniez à la clinique faire un courtage, parce que vous ne pouvez pas vous laisser comme ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai demandé le certificat de grossesse. Et je ne l'ai plus revu, évidemment, sauf devant les tribunaux.
Avec le certificat avec lequel vous avez décidé de porter plainte, en fait, c'était la preuve.
Évidemment, vous savez, vous le disiez tout à l'heure, d'emblée, c'est tellement difficile de s'attaquer à un médecin, surtout en Suisse. Vous le savez très bien. Et il me fallait une preuve. Et évidemment que sans cette preuve-là, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Et M. Escovaclis continuerait à subir sur la plage de Genève. Donc, il me fallait cette preuve. Je ne suis pas allée uniquement pour la preuve. Je suis allée voir jusqu'où ce médecin irait dans le mensonge. Et il est allé jusqu'au bout parce que si moi, je n'avais pas été voir l'autre médecin, il m'aurait encore fait croire qu'il m'avait fait un courtage. Il serait encore gagné de l'argent sur quelque chose qu'il ne m'avait pas fait. Donc, il est allé jusqu'au bout de son mensonge.
Et à partir de ce moment-là, il y a une sorte d'enclenchement, je suppose, des faits qui se produisent. Tout le monde est alerté, la commission de surveillance des professions de la santé, un peu plus précisément que jusque-là, parce qu'ils avaient déjà été avertis. Hein, Rina le disait tout à l'heure, ils avaient déjà été avertis des problèmes liés à ce médecin. Marie, comment vous avez été amenée à porter plainte? Est-ce que vous avez su que le lit avait porté plainte? Comment ça s'est passé? Comment les choses se sont enchaînées? Puisque au moment où le docteur Escovaclis va être mis en procès pour une première fois, il y aura 5 plaintes qui auront été réunies. Alors, comment ça s'est passé avec vous?
Alors, écoutez, avec moi, cela s'est passé, disons très simplement, en 1991, au mois de juillet.
Ça marche pas. C'est pas ouvert, je pense. Excusez-nous,
un petit problème technique.
Excusez-nous. On va vite le changer.
Oui, voilà, excusez-moi. Voilà,
oui.
Alors écoutez, ça s'est passé très simplement, si on peut appeler ça comme ça. En 1991, au mois de juillet, je suis tombée très très malade. Ce qui m'a d'ailleurs beaucoup, psychologiquement troublée. Et j'ai dû être hospitalisée à la clinique générale Beaulieu pour une intervention chirurgicale. Et lors de cette intervention, le chirurgien qui m'a opérée a dû faire une double intervention chirurgicale. Et quand je me suis réveillée le lendemain matin, que ce soit le chirurgien ou l'anesthésiste sont venus me voir en me disant « Écoutez, Madame Ferrero, on a dû ouvrir votre abdomen totalement et on n'a absolument rien compris par rapport à ce que vous nous aviez raconté avant l'intervention. On vous pose toujours des questions par rapport aux maladies que vous avez eues. Et puis en plus, la vessie n'était pas bien placée, on a dû la remonter, il y avait une espèce de désordre total. Alors bon, moi je tombais un tout petit peu des nues. Et comme ma santé n'allait pas du tout bien, ça allait de mal en pire, ce médecin me dit, Madame Ferrero, enfin, il faut demander votre dossier médical ou du moins une photocopie au docteur Marc Escovaclis pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire. Voilà. Alors, le connaissant depuis mon enfance, je ne me méfie absolument pas du tout de lui. Je lui ai envoyé une lettre à laquelle il n'a pas daigné répondre. Alors, je lui ai envoyé une lettre recommandée qui m'est revenue en retour parce qu'il ne l'a pas non plus prise. Je lui ai envoyé une troisième lettre, toujours recommandée, qui m'est venue de retour une dizaine de jours après, une semaine, 10 jours. Et là, vraiment, je n'allais absolument pas bien. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris donc pour Madame Volès ce qui lui arrivait. Et je lui ai téléphoné. Nous avons parlé longuement au téléphone. Et voyant toujours pas mon dossier arriver, j'ai décidé donc de porter plainte. J'ai porté plainte donc à la commission de surveillance des professionnels de la santé, mais ça ne bougeait pas vraiment. Et comme Madame donc Loli vous a expliqué, je n'ai pas de protection juridique, ce qui fait qu'il fallait payer de ma poche. Je n'ai pas des moyens pour payer un avocat comme ça, donc il fallait vraiment que je réfléchisse. Mais vu que mon état de santé allait vraiment de mal en pire, j'ai bien été obligée de porter plainte. Et ce n'est après 10 mois qu'on a pu avoir mon dossier, et par perquisition, parce qu'il ne l'avait pas remis. Moi, je lui avais écrit 3 fois, mais à part moi, il y a eu des chirurgiens, un des chirurgiens qui lui a téléphoné pour demander vraiment que ça allait de ma vie. Il lui a écrit. Il a eu aussi une lettre écrite par un professeur en gynécologie dont il n'a même pas daigné lui répondre. Et donc, j'étais vraiment obligée de porter plainte. Et puis, plus ça allait, plus je découvrais des choses invraisemblables qu'on m'avait faites et que je ne savais. Au fait, je ne savais pas parce qu'il m'a opérée à 5 reprises. En me faisant croire qu'il y allait de ma santé, il fallait absolument opérer, qu'il n'y avait absolument aucun traitement. Une de ces interventions, il m'a carrément enlevé l'utérus en prétendant qu'il était malade. Enfin, tous les arguments possibles pour... Et quand vous allez chez un médecin en qui vous avez en plus confiance, parce que si on n'a pas confiance en son médecin, vous me direz en qui on peut avoir confiance, et que vous n'êtes pas bien, et qu'on vous fait croire qu'il y va de votre vie, qu'il faut absolument l'enlever, la vie est quand même plus importante. Donc on accepte très très rapidement quand vous soulage de vos douleurs. Et donc j'ai accepté cette intervention. Et ce n'est qu'en 1991 que j'ai appris que mon utérus était parfaitement sain et tout à fait normal, et que le problème que j'avais est un problème qu'ont la plupart des femmes, c'est-à-dire ce sont des kystes qu'on appelle fonctionnels et qu'on peut parfaitement soigner avec la pilule ou d'autres traitements tout à fait qu'on trouve tout à fait couramment. Alors que moi, il a toujours prétendu qu'il n'y avait absolument pas de traitement et qu'il n'y avait que les interventions qui pouvaient remédier à mes problèmes. Alors, je ne vous dirai pas à quel point j'ai pu être choquée. Je me suis sentie vraiment humiliée, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je le suis toujours d'ailleurs, parce que des choses comme ça, on ne les oublie pas. On peut dire ce qu'on veut, on ne les oublie pas. Et on peut toujours dire, oui, il faut regarder de l'avant. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas regarder de l'avant. Quand vous êtes, que vous continuez à avoir des problèmes de santé qui sont très importants, suite à ce qu'il vous a fait. Parce que quand une personne, on lui ouvre l'abdomen à plusieurs reprises, il y a des différences entre certaines personnes et d'autres. Mais il y a un problème d'adhérence. Ce qui fait qu'une personne qui a eu des interventions multiples comme moi, c'est pas obligatoire qu'elle va avoir des adhérences automatiquement. Mais en ce qui me concerne, oui, ce qui fait que j'ai des problèmes qui sont permanents. Et cela, bien, je peux remercier le docteur Escovaclis. Et ça, c'est, vous comprenez, je ne pouvais pas me permettre de rien faire et que d'autres femmes subissent la même chose que moi. Ça, c'était inadmissible. Ça m'aurait empêché de dormir pour le restant de ma vie. Parce que durant le procès, nous avons pu savoir que déjà en 1970, il avait fait des mains et des pieds pour acheter la clinique Boisgentil parce que toutes les cliniques lui étaient fermées, tellement sa réputation était mauvaise. Donc, si d'autres femmes avait eu le courage de faire ce que nous, nous avons fait, eh bien, nous, on ne serait pas là. Alors, nous, déjà, on ne peut rien faire pour nous, parce que ce qu'on a subi, on l'a subi. Mais au moins, on espère que celles qui nous écoutent ou qui ont pu lire la presse sauront mieux se défendre et ne subiront pas la même chose que nous.
Je voulais vous juste demander, est-ce que vous avez, pour vous expliquer bien comment vous avez décidé de porter plainte, est-ce que vous vous connaissiez avant ou au moment où vous avez pris cette décision, ou ça a vraiment été une décision individuelle? Parce qu'en fait, après, plusieurs autres femmes se sont joints à vous. Est-ce qu'à un certain moment, vous êtes rencontrées et vous avez décidé d'une action collective?
Écoutez, je crois que les autres femmes sont venues après que l'article de l'Hebdo ait sorti, quelques-unes, mais il y en a d'autres qui avaient déjà des problèmes avec le docteur Escovaclis et puis qu'ils avaient déjà entendu parler. Mais je crois que l'article de l'Hebdo, il y en a certaines qui sont venues parce qu'ils avaient entendu parler de ça. Dans l'affaire des Marie, eh bien, c'est par un concours de circonstances. Moi, je ne connaissais pas du tout Marie, je connaissais son mari parce que j'allais manger là, dans un restaurant où il travaille, et j'ai pu prendre connaissance que sa femme suivait pas mal d'interventions. Et moi, j'étais en plein dans l'affaire Escovaclis. Et c'est pour ça que j'ai pris contact avec Marie et puis que je sais son histoire et puis qu'elle a décidé d'elle-même de porter plainte.